On va parler du match du Canadien hier soir parce que tu as vu des choses intéressantes, mais il faut parler surtout du marathon de Montréal, la décision annoncée hier. Le marathon, donc l'épreuve la plus longue qui a été annulée.
Oui, effectivement, on a annoncé la nouvelle hier. On y passait depuis un certain temps, là, surtout depuis qu'on annonce une canicule en fin de semaine. Des températures qui pourraient frôler les 30 degrés Celsius samedi et dimanche. Alors, on a donc décidé d'annuler l'épreuve maîtresse, c'est-à-dire le marathon, la course de 42 kilomètres. Les autres épreuves à l'horaire vont demeurer. Il y a quelques changements. Et pour en parler, on va aller retrouver Eddie Afram, il est consultant en gestion médicale, coordonnateur des services médicaux au Marathon de Montréal depuis 10 ans. Monsieur Afram, bonjour.
Bonjour.
À partir de quand avez-vous commencé là à apporter ces modifications et à carrément annuler le marathon de dimanche?
C'est sûr que lorsqu'on organise une course de cette envergure, on surveille la météo de très près tout en gardant un bémol, sachant que ça peut changer quand même rapidement. On a une cellule de crise qui s'assemble et on se consulte entre nous pour, dans le fond, prendre des meilleures décisions possibles. Et à un moment donné, lorsqu'on devient au fait là, de la garantie, si on veut, de ce genre de température qui est annoncée, il y a une décision difficile qui doit être prise, principalement basée sur les critères de santé et sécurité pour les participants. On a préféré la prendre plus tôt que plus tard afin de permettre aux gens qui doivent se déplacer d'être mis au fait plutôt que de leur annoncer ça à la dernière minute.
Il y a eu quelques cas au cours des dernières semaines, notamment lors d'un Ironman au Mont-Tremblant où un des participants est décédé, également lors du marathon de Québec il y a quelques jours. Est-ce que ce sont des événements dont vous avez tenu compte avant de prendre votre décision?
Bon, on prend pas cette décision basée sur les enjeux des autres courses, mais évidemment, lorsqu'on fait de l'analyse de risque en gestion médicale, on tient en compte notre capacité d'absorption en termes de taux de demande de présentation aux services médicaux, aux services ambulanciers également. On peut se rappeler, par exemple, en 2014, une année qui avait fait également chaud, où est-ce que les services médicaux ont été complètement débordés de notre côté. On a toujours été capable de prendre en charge leurs demandes, mais c'était quand même tout un défi. Donc, c'est sûr qu'on appréhendait ça aussi au niveau de la course, mais il faut savoir que les indicateurs qu'on se fixe pour décider si oui ou non la course aura lieu, ils étaient largement dépassés. On n'avait pas le choix de recommander ça pour préserver la santé et la vie en bout de ligne. Là.
Bon, c'est un peu la question que je voulais vous poser. Avez-vous des indicateurs là, très précis en disant si le degré de chaleur dépasse tant, ben c'est un élément majeur. Si l'humidex est supérieur à... Est-ce que ce sont des chiffres précis?
Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de calculer les températures, que ce soit avec le heat index américain, que ce soit l'humidex ou la température carrément. Il y a M. Boisvert qui mentionnait dans un article ce matin une autre étude comme quoi certaines personnes recommandent que dès 20,5 degrés au début de la course, ça devrait déjà être suffisant pour l'annuler. Nous, c'est pas l'indicateur qu'on se fixe. Normalement, on cherche des températures avoisinant de 28 et 30 degrés au pic de la journée. Et si cette température-là va être atteinte, c'est ce qui nous réfère pour prendre cette décision-là. Il faut comprendre aussi qu'on a un contexte saisonnier à prendre en considération. On n'est pas une ville où est-ce que ce sont des températures normales à longueur d'année. Donc, 39 degrés, course, pas course, ça reste un enjeu de chaleur extrême pour Montréal en général, indépendamment de l'événement. Donc, l'événement vient juste rajouter un facteur de risque supplémentaire sur cette température-là avec le taux d'humidité de 90%.
Les autres épreuves prévues vont demeurer, dont le demi-marathon, et vous me corrigerez, là, mais j'ai cru lire quelque part que dans le cas du demi-marathon, va falloir réaliser un temps inférieur, je pense à 3 heures, sinon on arrête la course, là.
Ben, dans le fond, c'est pas le message n'est pas de mettre de la pression aux gens, vous devez faire plus vite. C'est exactement le contraire. Nous, il faut comprendre la logique derrière cette décision, c'est-à-dire que si on commence en devançant la course à 7h30, 3 heures de plus, on arrive vers le 10h30, 11h tout au plus, ça reste relativement raisonnable en termes de chaleur qu'il devrait faire vers cette heure-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a annulé le marathon et non le demi-marathon. La raison pour qu'on dit aux gens, essayez de vous juger là, en termes de 3 heures, c'est que si vous savez déjà que vous allez dépasser 3 heures, c'est pas le temps de faire cette course cette journée-là. Vous allez atteindre des températures beaucoup trop élevées vers 11h, 11h30, midi, et nous, on n'aura pas le choix de vous recommander d'arrêter votre performance parce que c'est une question de santé. Le rendu-là, ça va à l'encontre des recommandations normales pour des courses comme ça.
Il est déjà arrivé que la météo se trompe. Est-ce que votre décision est irrévocable si jamais les conditions changeaient?
Ben, écoutez, moi, je suis pas en état de me prononcer là-dessus. Il y a une conférence de presse qui va être donnée tantôt. Cette question pourra être adressée à ce moment-là. D'expérience, je pourrais vous dire, logistiquement, à partir du temps où est-ce qu'une décision comme ça est prise et les changements que cela implique et les modifications tant au niveau des ententes qu'on fait avec la ville, nos fournisseurs et partenaires et également les services d'urgence qui doivent être capables de nous suivre là-dedans. Et je veux souligner qu'ils ont été assez exceptionnels, tant le service incendie de police qu'urgence santé dans leur appui. Je pense pas que c'est quelque chose qui serait possible, mais ça ne relève que de mon expérience.
Merci beaucoup, M. Afram.
Merci, M. Afram.
Merci à vous.
Au revoir. Eddie Afram est le consultant donc pour tout ce qui est le volet médical pour le marathon. Parlons de hockey quand même. Le Canadien jouait hier et meilleure performance que... Remarque, pas difficile à battre, là.
Que lundi contre
que Boston. Lundi, mais oui. T'as vu des choses quand même qui méritent d'être signalées.
Non, d'abord, allons-y pour la marque finale, 4-2 pour les Capitals de Washington, mais dans les circonstances, c'est plus ou moins important parce que, évidemment, ce n'est qu'un deuxième match préparatoire et surtout, hier, ceux qu'on espérait voir, là, qu'on avait hâte de voir, n'ont pas déçu. Je pense à Charles Hudon, qui, à mon avis, a été le meilleur attaquant du Canadien hier. Jonathan Drouin n'a pas raté son entrée en scène. Le jeune Victor Mété, un défenseur de 19 ans, qui joue un premier match dans la Ligue nationale, qu'on avait jumelé à Shea Weber, a montré des choses très intéressantes. Et moi, il y en a même un, Alechemski, qui, hier, n'a pas eu l'air fou sur la patinoire. J'étais un peu sceptique quand on a mis sous contrat Hemsky. Je me disais, c'est un gars qui va s'inscrire dans la lignée des Alexander Semin, des Daniel Brière et des P.A. Parento qui sont amenés à Montréal, que Marc Bergevin a amené à Montréal au cours des dernières années et qui finalement ont quitté, n'ont fait que passer. Mais Hemsky, hier, honnêtement, là, il a complété le premier trio avec Drouin et Pacioretty et il n'a pas été mauvais du tout. Alors, il y a des choses intéressantes pour Claude Julien dans la défaite d'hier. Et quant au résultat final, bon, c'est sûr qu'on aime davantage une victoire qu'une défaite, là, mais en bout de ligne, il n'y a pas de points rattachés à ça. Là, ça fait que
Et parle-moi d'un arbitrage rigoureux comme ce qu'on voit durant les matchs pré-saison.
Écoute, ça, c'est le grand sujet de conversation dans la Ligue nationale. Il y a de nouveaux règlements en vigueur. Il y en a un, entre autres, sur les mises en jeu, qui fait beaucoup jaser. En fait, c'est le règlement qu'on a décidé d'appliquer. Il est dans le livre des règlements depuis des années. C'est que un joueur, bon, il y a une certaine position, je ne ferai pas vous épargner les détails, là, mais le joueur doit adopter une certaine position lors de la mise en jeu, déposer son bâton sur la glace et doit demeurer immobile quelques instants avant que l'arbitre ne dépose la rondelle. Évidemment, les joueurs, là, au cours du fil des années, ont développé toutes sortes de techniques pour tricher. Et là, c'est ça qu'on veut arrêter dans la Ligue nationale.
Là, on donne des punitions à tour de
bras.
Et là,
on donne des punitions. Quand un club est pris deux fois en défaut sur la même mise en jeu, ou qu'un joueur est pris en défaut deux fois sur la même mise en jeu, on décerne une pénalité de 2 minutes. Et là, c'est devenu un vrai festival. Ça enlève un peu, là, écoutez, les équipes, là, ça rend l'évaluation des joueurs difficile parce que les clubs passent leur temps en avantage numérique ou en désavantage numérique. Pour vous donner une idée, Mark Streit a été le joueur le plus utilisé par le Canadien hier parce qu'on l'a utilisé à profusion sur l'attaque à 5. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'on sait très bien que quand la saison va commencer, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes.
Le sifflet dans la poche.
Le sifflet dans la poche, puis on va permettre aux joueurs de prendre un peu plus de liberté sur les mises en jeu, puis on va avoir tout fait ça pour rien.
Ça, c'est ma question de ce soir.
Bonne question.
Bonne question, Prophète. Et on sait que Prophète a un faible pour les arbitres quand même.
En plus,
Ça, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est...
Une ancienne vie, hein.
C'est qui... ça. Tatoué arbitre, tatoué à vie. Il est 8h29. L'autoroute 40.